106.9 Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Patrick Lagacé.
Je sais pas jusqu'à quel point Patrick est un nostalgique du baseball. Moi, j'en suis une. Salut, Patrick.
Salut, Catherine. Moi aussi, je suis nostalgique.
Oui, t'es nostalgique. Moi, je suis une fan de baseball. C'est mon sport. Autant j'aime d'autres sports, mais moi, le baseball, j'y ai joué. Les Aigles à Trois-Rivières, j'y vais souvent. Moi, je crois au retour des expos bien avant celui des Nordiques. Mais là, ce matin, on peut s'emballer, mais il faut aussi parler de chiffres. Il faut aussi le décortiquer un peu. C'est-tu crédible pour toi?
Ben, est-ce que c'est crédible? C'est crédible si le gouvernement aide, je veux dire. Tu sais, oublie jamais une affaire. Le sport professionnel en Amérique du Nord, que ce soit le soccer, que ce soit le baseball, le foot, le hockey, est très généralement subventionné par les fonds publics.
Ouais.
Ce sont des industries, excluons le soccer, là, OK, mais la MLS, mais le baseball, le football... le hockey, le basketball, ce sont des industries milliardaires,
ouais,
dont les profits, dont les revenus augmentent généralement d'année en année. Et on trouve quand même le moyen de faire subventionner, d'une façon ou d'une autre, les arénas ou les améliorations aux arénas et aux stades par les fonds publics. Puis ce que je veux dire par fonds publics, ça peut être des taxes, ça peut être des congés de taxes, ça peut être des taxes dédiées, ça peut être aussi, comme ça a été le cas, ou c'est encore le cas peut-être à Pittsburgh pour les Pingouins et leur aréna, une portion des revenus d'un casino. Bien, c'est une portion de revenus dont un État choisit de se priver. Moi, j'ai toujours trouvé ça, Catherine, un peu scandaleux de voir que des industries en pleine croissance, des industries qui ont les moyens de payer leurs employés des millions et des millions de dollars,
ouais,
ben réussissent à arracher comme ça des fonds publics. Et à Montréal, tu ne pourras pas avoir une équipe si ce n'est pas d'une façon ou d'une autre financé par de l'argent de tes impôts et de mes impôts.
C'est sûr. Mais est-ce que... Parce que j'ai lu pas mal là-dessus, puis jusqu'à maintenant, pour moi, en tout cas, c'est pas clair à savoir qui va payer quoi, finalement.
Ben, si c'est pas clair, dis-toi que c'est voulu que c'est pas clair.
Okay.
Parce que, écoute, c'est juste mon évaluation, mon appréciation de ce qui se passe. Quand on pose des questions aux gens qui sont dans le dossier, que ce soit à la mairie, que ce soit les gens du groupe de Stephen Brunfman, c'est pas clair, on va voir. Ça va prendre une participation, une forme de participation. On va demander un effort, etc. C'est quoi l'effort? C'est quoi la participation? On le sait pas. Ce que j'ai déjà... Tu sais, quand une ville a un club professionnel, dans le livre de jeu des clubs professionnels, quand ils veulent quelque chose des autorités locales, il y a toujours la menace de chantage, la menace, ouais, de déménagement, pardon. Tu sais, le chantage au déménagement. Écoutez, si vous ne donnez pas ça, on risque de s'en aller. Las Vegas va accueillir les Raiders d'Oakland. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait à Oakland, donc on a déménagé le club de football à Oakland. Il y a des cas comme ça dans tous les sports. Moi, ma crainte, c'est qu'il y a une forme de chantage à la relocalisation, c'est-à-dire que le groupe qui veut ramener le baseball à Montréal va garder les cartes clés sur sa poitrine. Et là, quand on aura peut-être la chance d'avoir un club, on va dire, écoutez, il faut que ça se règle en un mois. Fait que là, le débat public va se faire en un mois dans la catastrophe. Et si les politiciens ne donnent pas tout ce qu'ils veulent à ce groupe-là, ben ils vont porter le dieu d'avoir raté la chance d'avoir une équipe. Mmh. C'est dans le livre de jeu qu'on a constaté un peu partout dans plein de sports. Moi, j'aimerais ça qu'on nous dise,
ben oui,
combien on va devoir payer. Après ça, on le fait, le
ben
débat.
C'est ça. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Autant, moi, ça m'emballe d'en parler, mais il faut que ce soit du concret au niveau des chiffres. On va se parler,
oui, exact.
On va se parler un petit peu de Bertrand Charest. Là, on apprenait hier qu'il,
oui,
peut être libéré sous caution. Juste avant qu'on en parle ensemble, depuis le début, là, lui, bon, évidemment, il est allé en appel, mais lui, il digère absolument pas le verdict et la sentence. À aucun moment, Patrick, il a dit, hey, moi, je me sens responsable, je vais m'excuser. Excusez, on n'est pas là du tout, là.
Mais ça a été du bout des lèvres, je te dirais.
Ah oui,
hein?
OK.
Puis, ouais, ben, du bout des lèvres à la fin, je pense, avant la sentence, là. Mais j'insiste, du bout des lèvres. Écoute, dans cette saga-là, qui est symbolique à tellement d'égards, là, d'une part, c'est le cas d'un entraîneur qui a utilisé son équipe comme un harem. Ça s'est vu dans d'autres sports.
Mm.
Ce qui Ce qui est vraiment épouvantable, c'est que il semble que à Alpin Canada, là, l'organisme qui régit le ski, on avait vent, on a laissé faire, surtout vers la fin. On l'a déplacé, on l'a interdit, mais on n'a pas agi, tu comprends?
Ouais.
Et c'est là que ça s'est rendu à procès criminel. On n'a pas eu de difficulté, semble-t-il, à trouver plusieurs ex-skieuses qui sont venues témoigner contre lui. De gestes qui étaient, dans le fond, un abus d'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles. Après ça, t'as beau dire que c'est qu'il y avait consentement. Quand t'es entraîneur, t'as une relation d'autorité, la question du consentement devient extrêmement friable. Ça, c'est une chose. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, il sort. Moi, là, un truc qui me consterne, et je le dis souvent, le DPCP, je me demande des fois ce qui se passe en termes de supervision au DPCP. Moi, je ne doute pas du talent des procureurs de la Couronne, mais qu'est-ce qu'on offre comme supervision quand on voit, dans ce cas-là, OK?
Oui.
Au procès, on a accusé Charest pour des trucs qui se sont passés en Nouvelle-Zélande. Écoute, généralement, là, le Code criminel canadien s'applique au Canada. Il y a des exceptions, par exemple, si tu es un pédophile puis tu vas solliciter des services sexuels à l'étranger de mineurs, tu peux être accusé, poursuivi ici. Dans ce cas-là, la Couronne reconnaît qu'on n'aurait pas dû aborder ça, on n'aurait pas dû mêler ça dans les accusations parce que ça s'est passé dans un pays étranger. Écoute, je veux pas jouer au corps arrière du lundi matin puis dire vous auriez dû faire ça comme ça. Mais il me semble que c'est l'enfance de l'art que tu n'accuses pas pour des trucs qui sont passés à l'étranger. Je peux me tromper,
non.
Mais ça pose encore une fois la question de la supervision au DPCP.
OK. Fait que là, dans le fond, là, d'ici la décision finale, il va devoir respecter un couvre-feu. Il ne peut pas quitter le Québec. Oui. Donc, il y a des conditions à respecter, évidemment, ce qui est tout à fait normal.
Exact. Il ne peut pas se retrouver en présence de mineurs sans la présence d'un autre adulte, etc., etc. C'est sûr que pour les victimes, ça envoie un drôle de message.
Ben, c'est clair.
Parce que, bon, on dit dénoncer, et là, ce sont des erreurs qui ont été pilotées par la Couronne, veut pas. On a obtenu une condamnation dans ce cas-là. C'est sûr que ça ferme des blessures pour les filles qui ont témoigné, mais là, ces blessures-là, on peut s'en douter, là, vont être au moins partiellement rouvertes.
Et en terminant, Patrick, je veux glisser un mot sur ta chronique de ce matin. On en a parlé ensemble la semaine dernière. Ça s'appelle « Pour en finir avec le voile ». Tu parles aussi d'exemples. Tu parles de cette conseillère municipale d'Anjou qui a écrit des propos sur Facebook. Elle est allée voir une ophtalmologiste et la femme portait le hijab. Tu parles de cette conseillère municipale de Gatineau qui avait publiquement assumé son islamophobie.
Tu parles de là.
Parle-nous un peu de cette chronique-là. La semaine passée, on avait des opinions différentes. Ton point ce matin, c'est quoi?
Bien, mon point ce matin, c'est... regarde, moi, j'ai jamais cru à la menace... Je crois à la menace islamiste. C'est sûr que les islamistes, d'une part intégristes, d'autre part prêts à recourir à la violence, ont un pouvoir de nuisance. Mais quand on parle d'invasion, quand on parle de grand remplacement, quand on me dit que c'est une menace fondamentale à notre style de vie en Occident, dont au Canada, au Québec, je n'y crois pas. Et ce qui est symbolique, là, je te dirais, dans les propos de la conseillère municipale d'Anjou, c'est tout ce discours de paranoïa face à l'invasion. Écoute, au Québec, j'ai pas la chronique devant moi, là, mais j'ai cité des statistiques. Écoute, en Europe de l'Ouest, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, ce qu'on considère être l'Occident, disons, il n'y a pas de menace de remplacement. Démographiquement, il n'y a pas moyen que les musulmans prennent notre place.
Je les ai, moi, les statistiques, Patrick. J'ai ta chronique devant moi. Là. Les musulmans forment 1,1% de la population des États-Unis, 3,2% de la population canadienne, 5% de la population européenne, 2,6% de la population australienne et 1% de la population néo-zélandaise.
Et pour mettre en contexte, au Québec, je pense, là, j'y vais de mémoire, Catherine, okay, là, mais c'est de cet ordre-là. Là, je pense que c'est 20% des musulmans qui vont à la mosquée. Donc, tu as 20% des musulmans qui sont suffisamment pratiquants pour aller à la mosquée régulièrement. Le reste n'est pas suffisamment pratiquant pour aller à la mosquée régulièrement. Donc, ce discours-là qui mise sur la peur de l'invasion, de l'assimilation, pour moi, c'est un délire profond. Je pense qu'il faut commencer à le dire.
Puis à la fin de ta chronique, tu dis « Je reviens là-dessus bientôt, je vous le disais, on n'en finira jamais. » Alors, parce que j'ai l'impression que c'est ton... Ben, en fait, pas ton tome 1, parce que t'en as parlé souvent, mais je pense qu'on va s'en reparler.
Ben, on va s'en reparler. Je vais revenir là-dessus cette semaine, mais okay. Je veux dire, là où je trouve que, disons, le politique devrait s'abstenir d'instrumentaliser le voile, et je te parle pas de ceux dans la classe politique qui veulent faire peur avec l'islam. Mm. Non, je te parle de ceux qui se collent sur les religions, dont l'islam, okay. Pour marquer des points.
OK. Hey, Patrick, on s'en reparle jeudi. Tu t'absentes demain, donc jeudi matin, 7h15.
À jeudi.
Salut, bye-bye. Patrick Lagacé, du lundi au jeudi, mais exceptionnellement demain, il doit s'absenter, donc il sera de retour avec nous jeudi.